Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, notre émission d'aujourd'hui est intitulée « Catholicité, orthodoxie et universalité dans le christianisme émergent ». En effet, il s'agira de préciser le sens de certains termes dont le contenu a évolué au cours des siècles. Ces termes désignent des concepts fondamentaux de l'ecclésiologie dès les premiers siècles de l'histoire de l'Église. Pour en parler, nous recevons Marie-Françoise Baslez, historienne des religions et professeure émérite à l'Université Sorbonne, qui vient de publier chez Talendier un ouvrage intitulé « Comment les chrétiens sont devenus catholiques, du 1er au 4e siècle ». Marie-Françoise Baslez, le sens spécifique que revêtent certains termes comme catholique ou orthodoxe dans le lexique chrétien est différent par rapport au sens qu'ils avaient dans le langage courant.
Certes, et il faut y revenir, c'est très important, parce qu'aujourd'hui les termes se sont figés, évoquent des séparations, voire des oppositions, et on les considère un peu comme prédéterminés, alors que justement, il y a toute une évolution à prendre en compte. Alors, si on vous dit catholique, vous dites spontanément, ça veut dire universel, c'est comme ça qu'on le traduit, et ça exprime l'universalité donc de la foi chrétienne, d'un salut pour le monde entier, pour toute l'humanité. Mais au fond, ce qui frappe l'historien des mentalités, c'est que catholique, c'était pas le terme le plus fréquent en grec pour désigner l'universel. Si on voulait parler, je dirais, de mondialisation, on parlait d'œcuménique. L'œcuméné, c'est la terre habitée. Si on voulait parler de système organisationnel globalisant, en quelque sorte, on parlait de cosmique. Et catholique, qu'est-ce que ça voulait dire? Catholique, c'est l'idée d'une structure plus générale qui englobe des structures particulières. C'est assez bien rendu aujourd'hui, je dirais, par le terme de globalisation. Donc en fait, quand Ignace d'Antioche, qui écrit ses lettres vers 115-117, donc troisième génération chrétienne, je dirais, réutilise le mot de catholique pour préciser l'identité du chrétien, il veut dire par là que ce qui compte, ce n'est pas l'Église, la communauté particulière à laquelle appartient tel ou tel chrétien, mais il doit comprendre, tel ou tel chrétien, qu'il y a une appartenance religieuse globale qui englobe, qui surplombe toutes les appartenances particulières qu'il peut avoir localement. Et évidemment, cette appartenance religieuse globale, cette universalité religieuse, c'est son appartenance au Christ. Donc en fait, la désignation de catholique, l'identification comme catholique, elle apparaît à ce moment-là en réponse à une des difficultés d'emblée du christianisme comme du judaïsme, qui sont des religions diasporiques, des communautés, des groupes dispersés, clairsemés, donc tout au long, dans une partie de la Méditerranée. Catholique, donc, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose qui englobe, qui surplombe, encore une fois, toutes ces communautés particulières.
Alors, à partir de quand, de quelle époque, c'est Ignace, vous avez cité Ignace, donc au deuxième siècle, est-ce que c'est les premiers?
Au tout début. Hein.
Au tout début, oui.
C'est vraiment la troisième génération de chrétiens, à peu près, oui.
Et nous avons ce terme qui revient dans le credo. Alors, dans le monde orthodoxe, nous récitons le credo dit de Nicée-Constantinople, rédigé au IVe siècle. Et là, l'Église est dite une sainte catholique et apostolique. Est-ce que déjà le terme a évolué par rapport au sens du deuxième siècle?
Le terme a beaucoup évolué. Et il évolue déjà considérablement entre le début du deuxième siècle et la fin du deuxième siècle. Donc au départ, c'est une universalité religieuse, une appartenance au Christ qui englobe toutes les autres. Ensuite, et on voit poindre l'esprit missionnaire, il va porter avec l'évêque Polycarpe au milieu du deuxième siècle l'idée donc d'œcuménique, c'est-à-dire d'une mission catholique qui va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre habitée. C'est le deuxième sens qui l'enrichit immédiatement. Mais dans les mêmes textes, on est à Smyrne, vers 150, au milieu du deuxième siècle, un troisième sens apparaît, qui va rester malheureusement durablement. C'est que catholique devient une épithète, une caractéristique discriminante. On est catholique pour se distinguer et s'opposer à une autre communauté religieuse. Et ça apparaît dès 155. Quand Polycarpe dit, on dit de Polycarpe, il est l'évêque catholique de l'église catholique de Smyrne. Ça veut dire qu'il y a d'autres évêques chrétiens, d'autres églises qui ne sont pas dites catholiques. Donc ça devient discriminant. Et c'est le sens de l'évolution, développée par tous les pères de l'église ensuite au cours du IIIe siècle. Cette discrimination Elle est sans doute d'abord personnelle, peut-être, enfin, elle est indéterminée dans le cas que je viens d'évoquer, mais ensuite elle devient doctrinale. Et c'est là qu'on voit poindre une conjonction entre catholicité et orthodoxie. Et catholique, épithète discriminante, celui qui se distingue donc d'autres groupes chrétiens qui ont d'autres opinions. Donc il y a orthodoxe, avoir l'opinion droite, hétérodoxe, être d'une autre opinion. Et enfin, donc encore une épithète discriminante. Et à la fin, donc, cette discrimination que vont développer tous les pères de l'Église, d'abord grec et puis ensuite latin au cours du 3e, 4e siècle, elle va devenir juridique. Parce que pour aujourd'hui, pour celui, n'importe quel passant, il va penser catholique romain, presque obligatoirement associé catholicité et romanité. Et ça, donc, ça date de la dernière évolution du terme catholique, de l'identification comme catholique, dès que Constantin donne sa place au christianisme dans l'Empire. Catholique va de plus en plus tendre à devenir romain, car catholique va devenir un statut de droit, une catégorisation juridique et un statut de droit sous Constantin. Quand il donne des privilèges à l'Église, enfin, aux chrétiens, des propriétés, des privilèges, il les donne aux catholiques, ce qui veut dire pas aux hérétiques. Et c'est ainsi, donc, que la dernière évolution, c'est cela. Catholique devient ceux qui sont soutenus et qui sont fidèles à l'empereur et la conjonction, donc, avec l'idée de Romain.
Et puis, évidemment, il y a une autre réalité dans ce monde antique qui nous échappe, bien sûr, maintenant, aujourd'hui, c'est que nous avons deux mondes culturels complètement différents. Hein. C'est le monde grec et le monde latin. Et il est certain que cet héritage pèse également sur les mots.
Tout à fait. Alors, première observation intéressante à faire. Catholicos est un terme grec qui veut dire ceux qui englobent, ceux qui entourent de façon plus générale des choses particulières. Il n'a pas été traduit en latin. Il est passé sous la forme catholicus en latin. Donc, ce qui veut dire qu'au IIIe siècle, quand les auteurs de langue latine comme Tertullien ou Cyprien commencent à s'intéresser à l'ecclésiologie, ils n'ont pas vu dans Universalis, en latin, une bonne traduction, ce qui montre que déjà le terme donc a un sens spécifique pour eux. Alors, ce qui était aussi intéressant de relever, c'est que quand les pères de l'Église grecque, les intellectuels chrétiens grecs, donc, réfléchissent sur la notion de catholicité, donc au IIe siècle, ils ne la voient pas comme vous la verriez peut-être spontanément, en disant, je vous ai dit, c'est discriminant, il faut se discriminer des différents, des hérétiques. Mais leur réflexion est beaucoup plus fine. Ils s'attachent, en particulier Irénée, en particulier Clément d'Alexandrie, à définir, à penser l'unité dans la diversité. Et Irénée de Lyon, qui a finalement été un trait d'union, puisque Irénée de Lyon, évêque en Gaule, dans l'Occident latin, était originaire de Smyrne, dans l'Orient grec. Et Irénée de Lyon a une très belle formule qui synthétise très bien comment les intellectuels chrétiens grecs voient la catholicité, quand il dit « le désaccord, la diaphonia en grec, donc des expressions chrétiennes, n'empêche pas l'unité dans la foi qui s'obtient par la concorde et en essayant donc il faut surmonter les difficultés ou trouver la différence supportable. » Donc en fait, pour eux, l'unité, c'est une unification qui se construit dans des différences reconnues, acceptées, et ils donnent un très bel exemple d'intercommunion, pourrait-on dire, entre deux églises différentes, au moment donc où l'église de Rome et les églises d'Orient se disputent sur la date de Pâques, donc un désaccord entre chrétiens, on n'a pas la même appréhension du temps chrétien, et malgré cela, donc Irénée rappelle à l'évêque de Rome, son contemporain, que son prédécesseur, l'évêque de Rome à Nicée, a admis la communion en présidant la même Eucharistie avec Polycarpe de Smyrne, bien qu'il y ait eu des accords et qu'ils aient célébré Pâques à des dates différentes. Alors on retrouve là, je pense, quelque chose de totalement grec. Finalement, l'hellénisme, c'est toujours l'unification dans la concorde à travers, en surmontant les différences. L'hellénisme, il pense fédéral. Et encore à l'époque impériale, dans toutes les provinces orientales de l'Empire romain, vous avez des assemblées provinciales qui sont le lieu de réunion des différentes cités, donc les sièges épiscopaux, les futurs sièges épiscopaux, dans leur diversité. Donc il y a là la tradition grecque, l'unité, on la crée en s'unifiant par-delà les différences et en surmontant les désaccords. À Rome, c'est très différent. Les Romains sont un peuple de juristes et ils pensent davantage, surtout avec la mise en place de l'Empire, à l'unité sous forme donc de, on dirait aujourd'hui, de mondialisation, c'est-à-dire d'homogénéisation. Un statut unique, la citoyenneté romaine, ce qui sera réalisé en 212. Donc, unité dans l'homogénéisation. Les premières tentatives donc de l'évêque de Rome, à l'époque justement de la querelle sur la date de Pâques, c'est de dire un seul calendrier pour tous les chrétiens, et que ce soit le calendrier julien, le calendrier des Romains. Alors, au même moment, Irénée lui dira de l'autre côté, mais non, il y a un temps différent suivant les églises, il y a des langues différentes suivant les églises. Donc, vous avez là manifestement donc deux conceptions d'universel qui sont héritées donc par deux cultures différentes, helléniques et romaines, et qui vont être en discussion, en débat, tant que Rome n'est jamais qu'un siège épiscopal parmi les autres, c'est-à-dire jusqu'au IVe siècle. La différence va devenir non plus que seulement culturelle, mais institutionnelle et religieuse à partir du IVe siècle.
Merci beaucoup. On fait maintenant une pause pour aller dans l'église. C'est notre Père de la Fête de la Croix que l'église célèbre le 14 septembre. Et c'est une mélodie géorgienne qui est chantée donc en géorgien par le chœur Saint-Siméon sous la direction de Nana Peradze. Et après notre Père de la Croix, chanté donc par la chorale Saint-Siméon sous la direction de Nana Peradze, c'était une mélodie géorgienne que nous avons entendue ici. Retour à notre entretien avec Marie-Françoise Basselez sur catholicité, orthodoxie et universalité dans le christianisme émergent. Alors maintenant, une question concernant un terme qui a été, semble-t-il, rajouté au credo du IVe siècle, ce qu'on appelle le credo de Nicée-Constantinople, très probablement à Constantinople, puisque ces derniers articles ont été rajoutés donc à la fin du IVe siècle.
En 381, c'est tard.
Tout à fait, ouais, c'est tard. Alors, on dit qu'on croit à l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Alors, ce terme apostolique, que veut-il dire? Qu'est-ce qu'il entend par là? Et depuis quand on le voit dans l'Église?
Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Un symbole, c'est un signe de reconnaissance par lequel les chrétiens, voyageurs, devaient se reconnaître d'une communauté à une autre. Et quand ils le professaient, le credo, le symbole, affirmait donc l'unicité de la foi, qui est la grande définition des pères de l'Église. La foi, elle est unique, même s'il y a des accords entre les expressions de la foi. Mais nous avons donc une formule un peu empirique qu'on appelle le symbole des apôtres, qui s'est constitué durant tout le IIIe siècle, où le chrétien dit qu'il croit en l'Église, en la Sainte Église catholique. Sainte est une définition juive, c'est le peuple des sauvés, le peuple des croyants distincts du monde, et catholique, universel. Et cette formule donc est développée, comme vous venez de le rappeler, donc dans le credo de Nicée qui lui-même a été très discuté et reformulé sans cesse, qu'on oublie trop souvent, et finalement avec un point final mis au concile de Constantinople en 381. Donc là, ce n'est plus « je crois en la Sainte Église catholique », mais « je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». C'est-à-dire, on a rajouté deux éléments, l'unité affirmée, une, et l'apostolicité. L'apostolicité, donc, défendant l'unité. C'est-à-dire que, pour affirmer l'unité à la diversité, il fallait un principe unitaire fort. Et on a cru le trouver, donc, dans la référence au collège apostolique, le collège des douze, le collège constitué par Jésus dans les évangiles. Et donc, il s'agissait par là, par un travail de mémoire, par une reconstruction théologique qui animait donc les pères de l'Église durant tout la fin du deuxième, depuis Irénée et le troisième siècle. Il fallait donc par là, donc, pour affirmer l'unité dans la diversité, trouver un point d'origine commun, un point de départ commun. Oui, les églises étaient locales, particulières et diverses, mais elles avaient un point d'origine commun. C'était ce collège des douze constitué par le Christ. Ce collège des douze, donc, qui est à l'origine de la mission, avec l'idée donc du partage des champs missionnaires entre les apôtres du Christ, entre le collège des douze, qui va se constituer, c'est sur un ensemble de légendes, de traditions très lentes. C'est comme ça que vous retrouvez Saint Jacques, par exemple, en Espagne. Donc, l'idée, ce sont les apôtres qui ont dirigé tous les axes de la mission. Donc, c'était un contrôle de l'espace. C'était trouver un point d'unité, une origine commune dans l'espace. Également dans le temps. Les pères de l'Église reconstruisent comme un âge d'or l'âge apostolique. Ils inventent l'expression d'âge apostolique. L'âge apostolique, donc, qui est celui où la vérité règne, sans être discutée ni menacée. D'où l'importance de rapporter tous les textes normatifs du canon chrétien à l'âge apostolique, en les attribuant soit directement aux apôtres, soit à l'un de leurs proches, comme Marc, par exemple, proche de Pierre, ou Luc, proche de Paul, ou en utilisant la pseudonymie, en affectant à des apôtres des textes qu'ils n'ont jamais écrits. Et troisième, l'apostolicité, donc, est un troisième élément d'unité sur le plan institutionnel. Jésus a constitué le groupe des douze, on le voit bien dans les évangiles. Il ne l'a pas institué comme ministère, il n'y a pas de geste sacramentel. Il n'empêche donc que dès Ignace, donc dès le début du IIe siècle, le collège apostolique fonctionne comme un modèle auquel doit se conformer par analogie l'ensemble du corps épiscopal, qui trouve son unité dans le Christ, comme les douze apôtres le trouvaient dans le Christ. Donc, de trois façons, un principe d'unité. Le point d'origine, réinventer en définitive, le point d'origine de quelque chose qui s'est diversifié. C'est ça que porte le concept d'apostolicité. Est-ce que ça a marché, bien fonctionné? Eh bien non, pas tellement. Et c'est là qu'on voit finalement l'importance des pesanteurs culturelles et de ce particularisme local qui a toujours été celui des cités grecques et donc des communautés chrétiennes de l'Orient hellénisé. C'est-à-dire que finalement, ces cités, ceux qui connaissent un peu le monde grec le savent bien, elles fonctionnaient sur l'émulation. Elles étaient toutes égales, toutes identiques, toutes libres, mais elles fonctionnaient sur l'émulation. Comme le montre bien l'épigraphie à l'époque impériale. Il fallait s'imposer parmi les autres cités. Il fallait être la première de toutes les cités. Et c'est ce qui a joué. Donc c'est comme ça, sur le plan de l'émulation, qu'on a aussi utilisé le principe d'apostolicité. Et au lieu d'unir, il a divisé. Quand l'évêque de Rome revendique l'apôtre Pierre, l'évêque d'Éphèse, lui, répond en revendiquant donc l'apôtre Philippe et l'apôtre Jean. Et ça divise au lieu de réunir.
Alors, est-ce qu'on peut penser que le terme « Église une » est là aussi pour garantir l'unité de cette Église apostolique qui n'est pas encore garantie, qui n'est pas encore donnée?
Alors la question est-ce que l'unité, elle est garantie par qui à cette époque-là? L'autorité unitaire, qui est-ce? C'est l'empereur. On est dans le cadre de l'Empire romain. Et en 381, c'est l'empereur Théodose qui réunit le concile de Nicée. Et c'est l'empereur Théodose qui donne un statut de droit au christianisme nicéen, donc au symbole de Nicée. Le christianisme est religion d'État sous sa forme nicéenne. Donc là, il y a une opération, l'autorité, elle est politique, et on retrouve cette contamination qui subsiste jusqu'à maintenant, donc, et catholique, ce qui est romain.
Et pour les deux minutes qui nous restent, le rôle des conciles, des synodes là-dedans?
C'est l'expression très belle de cette unité dans la diversité, avec donc des réunions donc d'évêques tous sur le même plan et dégageant donc sous l'inspiration de l'Esprit Saint théologiquement dégageant donc l'unité de la foi par des décisions prises à la majorité et considérées comme l'unanimité. Donc on arrive là à cette idée, une évolution qui est toujours un peu latérale et implicite mais quand même très forte, que on passe à travers catholique de la notion d'universel ou d'universel englobant à celle de plénitude dans la foi. Donc, même dans la diversité, la réunion donc des évêques et du héritier du collège épiscopal exprime donc la plénitude de la foi.
La plénitude de la foi. Donc, on peut aussi penser que le terme catholique exprime également la plénitude de la foi, un terme aussi donc qualitatif et pas seulement quantitatif.
Absolument. Et ça apparaît déjà chez Irénée, donc au IIe siècle, bien qu'il n'ait jamais utilisé lui le mot de catholique. Il tourne autour de la notion, il la développe, il l'affine en particulier. Il développe cette idée de plénitude dans la foi qui distingue l'Église, ce qu'il appelle la véritable Église, l'Église authentique, des Églises dissidentes, mais il n'utilise pas le terme de catholique.
Écoutez, Marie-Françoise Vasselès, un grand merci pour cette présentation et cette clarification de termes qui, évidemment, ont changé beaucoup. Parce que quand on dit catholique et orthodoxe aujourd'hui, on entend automatiquement les termes comme ils ont été formés, peut-être après la Réforme, donc l'Église de Rome ou les Églises orthodoxes.
Et on associe catholique et romain, ce qui n'est pas non plus du tout la réalité des origines hein, pendant 4 siècles.
Hein. Mais évidemment, nous ne sommes plus au 1er ni au 4e siècle. Merci beaucoup. Donc, le livre, c'est Marie-Françoise Vasselès, Comment les chrétiens sont devenus catholiques du 1er au 4e siècle, paru chez Talendier. Un grand merci.
Merci.
Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Olivier Dupré. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.